autour de la question.
D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation pour remonter le temps aujourd'hui sur les traces d'une extraordinaire découverte, celle d'un nouvel ancêtre de l'humanité, un Australopithèque anamensis qui a vécu dans l'actuelle Éthiopie il y a 3,8 millions d'années. Plus vieux que Lucie donc, son crâne complet qui présente des caractères à la fois anciens et modernes a été analysé et daté par le paléontologue éthiopien Yohannes Haile-Selassie et ses équipes qui l'ont exhumé. Qui ont même reconstitué son visage, bouleversant à découvrir sur nos pages. MRD, c'est son petit nom, rajoute non seulement une page à l'album photo de l'humanité, ouvrant de nouvelles questions sur nos commencements, il met aussi l'Éthiopie au centre des recherches en paléontologie. C'est à Addis Abeba que sont conservés et étudiés les plus célèbres spécimens de fossiles humains et préhumains comme Hardy et Lucie. Reportage en Éthiopie, signé de notre correspondant Vincent Dublanche, commenté par notre invité, la paléontologue Doris Barboni, qui a, elle, reconstitué l'environnement de notre nouvel ancêtre éthiopien, qui a déjà fait la une de Nature. Autour de la question comment décrire ce nouvel ancêtre de l'humanité, il fallait d'abord le trouver et le reconstituer, comme l'explique le docteur Yohannes, son découvreur.
Mon instinct me disait que les deux pièces se joindraient parfaitement. Et j'ai pris la mâchoire et le crâne, et clic, c'est un crâne parfait.
Un crâne parfait, le plus ancien crâne d'Australopithèque anamensis, découvert dans la région d'Afar, en Éthiopie, sur le site de Voranesomile, champ de recherche du docteur Yohannes et de son équipe, situé à une cinquantaine de kilomètres au nord du site de Hadar, où fut découverte Lucie. Cette zone est un vrai paradis pour les paléontologues, pour les anthropologues et même pour les palynologues, comme Doris Barboni, qui devrait nous rejoindre en duplex depuis les studios de France Bleu à Aix, pour nous raconter l'environnement de cette extraordinaire Australopithèque. Est-ce qu'on s'attendait d'ailleurs à trouver un aussi vieil ancêtre et un crâne aussi complet sur ce site de Voranesomile, foulé par le docteur Yohannes Haile-Selassie et son équipe? Cet anthropologue éthiopien enseigne actuellement à l'université Case Western Reserve à Cleveland, aux États-Unis. Il est également conservateur du Muséum d'histoire naturelle de Cleveland et il mène des recherches depuis plusieurs années sur ce site sans avoir jamais imaginé faire une telle découverte. Je vous propose de l'écouter raconter cette découverte totalement inattendue dans ce super reportage signé Vincent Dublanche, notre correspondant en Éthiopie. Le docteur Yohannes revient d'abord sur cette découverte inespérée faite donc le 2 février 2016 par un éleveur de chèvres nommé Ali Berino.
What you're seeing here is the first piece, which is the upper jaw.
Ce que vous voyez là, c'est le premier morceau. La mâchoire supérieure, celle trouvée par cet habitant de la région, Ali Berino. Il vivait temporairement ici. Il avait quitté les basses terres durant la saison des pluies pour cet endroit davantage en altitude et habitait là pour environ 6 mois. Il est tombé sur ce spécimen complètement par hasard, alors qu'il creusait un trou pour ses petites chèvres. Il savait que je serais intéressé, donc il a fait toute la route jusqu'à l'endroit où je travaillais pour me l'apporter. Je lui ai demandé de m'emmener à l'endroit où il avait fait la découverte. J'ai jeté un coup d'œil aux alentours et à 3 mètres de là, il y avait un autre morceau. J'ai été surpris, c'était la deuxième partie, la plus grande qui correspond au reste de la tête. Nous espérions que les deux s'emboîtent et on a été chanceux puisqu'elles s'emboîtent parfaitement.
Du coup, les chercheurs se sont mis à creuser, à fouiller, à gratter, à racler toute la zone pendant près de 3 jours. Imaginez qu'ils ont carrément passé au tamis le sol, pas toujours ragoûtant de l'endroit. C'est l'envers du décor et de la découverte racontée par le docteur Yohannes.
Malheureusement, le spécimen a été découvert à l'endroit où les chèvres vivaient. Et vous savez bien ce que font les chèvres. Elles empilent quelque chose auquel tu n'as pas vraiment envie d'avoir affaire. Ce que vous voyez sur les images, là, ce sont nos travailleurs locaux tamisant les 1% de terre et 99% de crottes de chèvre. Il nous fallait passer au crible tout ça, car les fragments du crâne qui manquaient étaient dans cette zone. Donc nous n'avions pas d'autre choix que de tamiser 3 jours de suite. Et les gens n'étaient pas dégoûtés, ils prenaient les choses de chèvre avec leurs mains. Bon, certains ont dû se couvrir le visage parce que cela sentait vraiment mauvais. Mais ils ont aimé ce qu'ils faisaient.
Sacré travail de fourmi qui a permis de retrouver tout de même les os des pommettes et même les orbites. Et donc de pouvoir reconstituer le visage du MRD. Le docteur Johannes a obtenu des autorités éthiopiennes l'autorisation exceptionnelle d'exporter son crâne quasi complet aux États-Unis pour le passer au CT scan, c'est-à-dire pour pénétrer virtuellement et voir visualiser l'intérieur du crâne pour l'analyser évidemment, mais aussi pour pouvoir lui redonner un visage. Opération bluffante réalisée par le paléo-artiste qui avait déjà recréé le visage de Lucie.
A paleo-artist by the name John Gerchi took the work of
Un paléo-artiste du nom de John Gerchi a travaillé à rendre sa chair au crâne à partir de notre impression en 3 dimensions. Il a commencé par mettre des muscles sur le visage et sur le haut du crâne. Ensuite, il a mis la peau et les cheveux. Et c'est ce qui donne la reconstruction faciale que nous vous présentons. Nous avons une vision réaliste de ce visage créé avec l'aide de nos connaissances anatomiques et en termes de musculature. Et nous pouvons ainsi regarder en face l'ancêtre lointain de l'humanité connu sous le nom d'Australopithèque anamensis.
Vous écoutez RFI autour de la question.
Autour de la question, comment décrire notre nouvel et si lointain ancêtre après l'avoir daté 3,8 millions d'années et lui avoir redonné un visage que vous pouvez d'ailleurs admirer vous-même, ça vaut vraiment le détour sur notre page Facebook. Ces découvreurs, les docteurs Johannes Alesselassie et Stéphanie Melillo de l'Institut Max Planck en anthropologie de l'évolution de Leipzig, ont cherché à déterminer à quelle espèce il appartenait. Était-ce un Australopithèque afarensis, comme Lucie, comme d'autres, exhumés dans le fameux triangle Afar dans le nord-est de l'Éthiopie, au tout début de la dépression du Grand Rift Est-Africain, ou bien est-ce un nouveau spécimen d'Australopithecus anamensis que l'on ne retrouvait jusqu'à présent pratiquement que du côté du Kenya. Les anthropologues Johannes et Melillo ont fait le tour du monde de toutes les collections pour comparer fossiles en main. Le résultat, publié dans Nature, est sans appel. MRD est bien le plus ancien spécimen d'Australopithèque anamensis connu à ce jour, comme l'a expliqué le docteur Stéphanie Melillo à notre correspondant en Éthiopie, Vincent Dublanche.
We were able to reject the idea that MRD belonged to afarensis pretty easily.
Nous avons pu assez facilement écarter l'idée que MRD appartiendrait à l'espèce afarensis. C'est parce que nous avons un crâne complet avec MRD et nous avons ainsi pu comparer à un crâne complet d'afarensis retrouvé dans la région de Hadar en Éthiopie. En faisant cette comparaison, nous avons remarqué beaucoup de différences. En revanche, les fossiles dont nous disposons pour comparer avec des restes d'anamensis sont bien plus limités, car cette espèce était avant tout connue grâce à des mâchoires et des dents. Donc, nos points de comparaison devaient s'en tenir à ce domaine. Donc, dans l'ensemble de ces régions anatomiques, les dents, la mâchoire supérieure et une petite région autour des oreilles, nous avons pu trouver de nombreuses correspondances entre ce que l'on savait déjà d'anamensis et MRD. Pour donner un exemple, la morphologie des canines a joué un très grand rôle pour nous permettre de classer MRD dans l'espace d'anamensis. La taille globale, la dimension des canines de MRD sont des signes distinctifs d'anamensis. En tant que plus ancien crâne du genre Australopithèque, MRD jette un pont entre les plus anciens hominines qui ont vécu il y a entre 6 et 5 millions d'années et l'espèce de Lucie, afarensis, qui est connue pour avoir vécu il y a entre 3,5 et 3 millions d'années. MRD combine à la fois certaines caractéristiques particulières du visage qui sont spécifiques aux Australopithèques et des éléments du crâne qu'on ne connaissait que pour les fossiles très anciens.
l'anthropologue Stéphanie Mélilo, co-découvreuse avec le docteur Johannes du plus ancien crâne complet d'Australopithèque Amnamensis dans l'Afar éthiopien. Une sacrée découverte qui change la donne, ou plutôt la chronologie et les liens entre les différentes espèces dominines qui nous ont précédés et qui vivaient dans cette région de l'Afar en Éthiopie. Bonjour Doris Barboni.
Bonjour Caroline Chesky.
Merci d'être en duplex avec nous. On a eu un peu de mal à vous avoir, mais on est ravis de vous avoir depuis les studios de France Bleu à Aix-en-Provence. Alors vous êtes Doris Barboni, palynologue, spécialiste des microfossiles de plantes. Vous êtes chercheuse au CNRS et vous travaillez au CEREJ, donc le Centre Européen de Recherche et d'Enseignement en Géosciences de l'Environnement à l'Université d'Aix-Marseille. Vous avez participé à l'une des deux études autour de cette Australopithèque anamensis, parue dans Nature, dans cette revue scientifique prestigieuse. Vous avez participé à l'article sur l'environnement, le contexte dans lequel a vécu ce nouvel ancêtre. Alors, qu'est-ce que vous avez compris, Doris Barboni, de l'environnement de cet Australopithèque anamensis il y a, j'ai du mal avec les dates, j'y arrive pas, 3,8 millions d'années, c'est ça?
Oui, c'est ça. Donc, au CEREJ, on a eu la chance en fait, de pouvoir étudier les sédiments. Donc, on a été contacté par Naomi Levine, qui est une collaboratrice de Johannes, Alice Lassier, et on avait déjà travaillé avec elle. Elle nous a dit, bon, on testait, on ne sait jamais, il y a peut-être des pollens préservés. Et donc, ça a été une chance d'en trouver, effectivement. Donc, il y avait des pollens, ce qui est assez rare dans les sédiments de cette région.
Ah oui, de trouver des pollens, oui, ça se
garde
pas.
Voilà, de trouver des pollens, voilà, ça se passe très bien dans ces zones arides, même dans les sédiments lacustres qui proviennent de lacs. Et là, coup de chance, c'était préservé. Et on a trouvé aussi un petit peu de phytolithes, d'autres petites particules de...
Doris Barboni, vous m'entendez? On vous a perdu.
Je
vous entends, mais on vous avait un petit peu perdu, excusez-moi. À propos des pollens, Doris Barboni.
Oui, donc je vous disais qu'on a trouvé des pollens phytoliques, qui sont aussi de petites particules de plantes produites par les plantes.
Ah, on vous a reperdu, Doris Barboni. Pourtant, vous n'êtes pas en Éthiopie, vous êtes à Aix-en-Provence par téléphone. Écoutez, on va vous retrouver, on va essayer d'avoir une ligne un petit peu meilleure. On va vous retrouver pour nous expliquer l'environnement assez étonnant dans lequel vivait il y a 3,8 millions d'années cette Australopithèque anamensis. On retrouve d'abord le docteur Johannes avec lequel vous avez travaillé, Doris Barboni, au micro de Vincent Dublanche en Éthiopie, à propos justement de l'environnement de cette Australopithèque.
On ne peut pas affirmer que c'était l'environnement dans lequel MRD vivait, puisque, bien entendu, nous l'avons trouvé là où il est mort. Donc le fait de savoir s'il vivait ailleurs, mais est mort ici, c'est une autre histoire. La chose que l'on peut dire en revanche, c'est que, puisque le spécimen n'est pas érodé, il n'a pas été déplacé. Donc il ne vivait probablement pas très loin. L'autre chose que nous avons apprise des indices collectés est que l'endroit était probablement situé à une altitude plus élevée à l'époque, car nos collègues ont trouvé et analysé des éléments de la flore caractéristique de l'altitude. Donc on ne peut pas affirmer cela catégoriquement, mais ce que l'on peut dire, c'est qu'il y avait un grand lac, le plus vieux documenté dans la zone, car jusqu'à présent, on en avait un de 3,5 millions d'années. Mais ici, c'est 3,8. Donc c'est un autre écosystème lacustre.
Doris Barboni, je ne sais pas si vous avez pu entendre, parce qu'on a des petits soucis de duplex et de studio, de liaison avec vous, non pas avec l'Éthiopie, hein, mais avec Aix-en-Provence. Je ne sais pas si vous avez pu entendre le docteur Johannes aller s'élasser sur l'environnement de cet Australopithèque. Mais donc c'était un lac, c'est-à-dire qu'il faut s'imaginer, enfin c'est comme ça que je le vois, une zone lacustre, cette région d'Éthiopie si riche en hominines. C'était quoi? C'était un lac autour...
Il faut imaginer aujourd'hui dans cette région, c'est extrêmement aride. Donc vous avez quelques arbustes dispersés. Le long des cours d'eau, on peut trouver des grands arbres, mais pareil, assez dispersés. Donc c'est pas du tout de forêt, de bordure de rivière, comme on peut avoir dans des zones plus humides, comme la vallée de l'Omo, dans le sud.
Oui.
Donc aujourd'hui, c'est très aride. Et à 3,8 millions d'années, il y a 3,8 millions d'années, les pollens ont permis d'identifier une variété de plantes, donc beaucoup plus de diversité que ce qu'on peut observer aujourd'hui dans cette région, et des plantes qui sont vraiment inféodées à la forêt riparienne, donc de bordure de rivière. Beaucoup d'acacias, de pollen d'acacias, ce qui est assez exceptionnel. On n'a pas d'analogue aujourd'hui pour dire à quoi vraiment ça pouvait ressembler comme type de forêt, mais...
Des acacias, donc des bords de...
Des acacias.
Donc de l'eau, des bords de rives, des acacias dans lesquels vivaient ces hominines.
Voilà. Et on a aussi des plantes typiques de la savane arbustive qui était alentour. Donc on n'avait pas une steppe désertique, mais une savane avec des arbustes et beaucoup de graminées aussi. Donc on avait quand même plus de végétation que ce qu'on peut observer aujourd'hui, ce qui indique un climat plus humide. Les pluies devaient être plus abondantes et peut-être la saison sèche moins prononcée.
Et qu'est-ce que ça peut nous permettre de dire, puisque vous travaillez en collaboration avec ces paléo-anthropologues, sur cette espèce, ces espèces, qu'est-ce qu'on sait? Enfin, combien de temps a duré cet environnement que vous nous décrivez? Est-ce qu'il n'y avait qu'une espèce d'Australopithèque adamensis à l'époque? Qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs espèces hominines? Qu'est-ce que ça dit sur eux de reconstituer leur environnement? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez ou pouvez nous en dire?
Alors, je ne peux pas marcher sur les plates-bandes de mes collègues paléontologues parce que je n'ai pas les connaissances pour ça. On travaille en collaboration, on produit des données chacun de notre côté et ensuite on essaye de voir comment peut-être l'un peut expliquer l'autre. Donc, sur la végétation, la paléo-végétation, on sait que c'était un milieu plus favorable à 3,8 millions d'années qu'à 3 millions d'années. Donc, quand Lucie, qui est l'Australopithèque afarensis, vivait, eh bien, les conditions étaient plus sévères, au niveau de climatiquement plus difficile à vivre, j'imagine.
D'accord, plus difficile que du temps de MRD, de cet Australopithèque anamensis, d'accord.
Oui. Par contre, donc on ne sait pas combien il y avait d'espèces. Il y avait peut-être plusieurs populations d'anamensis. Et certaines se sont éteintes et d'autres ont peut-être donné naissance à Australopithecus afarensis. Mais ça, moi, je n'en sais rien. Et ce que nous, on essaye de faire, c'est d'essayer de trouver dans l'environnement des différences qui permettraient d'expliquer pourquoi une autre espèce a émergé, en fait.
Parce qu'en fait, mais c'est dans l'environnement que ça se lie. C'est-à-dire, c'est quand l'environnement devient plus complexe, plus difficile, il y a une autre espèce qui serait plus adaptée, qui peut émerger. C'est un peu ça, enfin, si je simplifie grandement.
Voilà. Bon, il y a plusieurs théories de l'évolution, mais une des hypothèses serait que le changement de l'environnement dans lequel vit une espèce devient plus en plus prononcé, ce qui va forcer une partie de la population à l'extinction et puis une autre partie de la population peut-être va s'adapter et va permettre de donner naissance à une autre espèce. Donc, c'est une des théories serait cela.
Et vous,
une influence de l'environnement sur l'évolution.
Et vous, Doris Barboni, donc vous récupérez des microfossiles, vous les étudiez ensuite, particulièrement dans cette région. C'est quand même un terrain, alors moi je dis l'Éthiopie au sens large, mais c'est vraiment un terrain que vous pratiquez beaucoup parce que c'est un terrain où on trouve plus de pollen, plus de traces, ou parce que c'est là où il y a plus de fossiles humains?
C'est là où il y a le plus de fossiles humains. Bon, après... Il n'y a pas que les humains qui comptent. Et mes collègues paléontologues spécialistes des hippopotames, Jean-Renaud Boisserie par exemple, ou Antoine Souron qui est spécialiste des cochons, n'arrête pas de me dire, mais il n'y a pas que les humains qui comptent. Hein. Les hippopotames, c'est tout aussi important. Néanmoins, on est quand même proche de cette espèce-là. Donc, c'est vrai que ça confère un peu plus d'importance. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de savoir comment le climat ou les changements de végétation ont pu avoir une influence sur la répartition des espèces, leur migration, leur dispersion.
Et le fait de collaborer justement à une étude, à une découverte pareille, celle d'un nouvel ancêtre de l'humanité, ça fait quoi quand on est à la fois complètement partie prenante, puisque vous travaillez avec ces paléontologues, l'environnement nous renseigne, ça vous ouvre d'autres questions, mais qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'on se rend compte qu'on ouvre aussi un nouveau chapitre de notre préhistoire?
Oui, c'est touchant. Moi, je suis touchée par ce genre de découverte, c'est sûr. Après, c'est vraiment un puzzle, donc c'est une petite découverte plus une autre petite découverte. Mais c'est Oui, c'est touchant.
Qui en amène des grandes. Et vous n'êtes pas toute seule à travailler là-dessus. Doris Barbonnier, on vous retrouve. Mais la compréhension, hein, on vient de l'entendre, de l'environnement, c'est vraiment une clé fondamentale pour vous, pour les anthropologues, pour les paléontologues, qui ont d'ailleurs, dans cette région, longtemps pensé qu'il y avait d'abord eu des Australopithèques anamensis, hein, comme MRD qui vient d'être découvert, et puis des Australopithèques afarensis, comme Lucie. Or, quand on lit attentivement votre étude parue dans Nature, les deux espèces ont très bien pu aussi vivre ensemble dans cet environnement, on l'a dit, lacustre, hein, sur une plus longue période que prévu, sur plus de 100 000 ans. Du coup, je vous propose de repartir en Éthiopie pour écouter à ce sujet les explications du docteur Ioannès sur cette nouvelle compréhension à travers l'environnement, hein, de l'évolution des espèces moins linéaire que ce à quoi on s'attendait.
Quand nous évoquions la relation ascendant-descendant entre les Australopithèques anamensis et afarensis, nous pensions que la transition était linéaire. Autrement dit, l'ancêtre s'éteint et le nouvel arrivant débarque. Mais ce que ce spécimen nous dit, c'est que ce n'était pas le cas. En réalité, l'ascendant et le descendant se sont chevauchés pendant environ 100 000 ans. Donc ce que cela signifie, c'est que le mode d'évolution n'était pas linéaire, mais plutôt sur le mode de la séparation, avec une petite population d'anamensis se séparant de la population principale avec le temps. Donc cela modifie le mode d'évolution de ces deux espèces, et nous apprend que la différenciation était probablement le mode de spéciation le plus courant dans l'histoire des fossiles. Parce que désormais, nous avons documenté beaucoup de chevauchements entre espèces. Il y a 4 ans, j'ai publié une nouvelle espèce, l'Australopithèque Deiremeda, datant d'il y a 3,5 à 3,3 millions d'années. Cette période est aussi celle où Afarensis vivait. En fait, sur notre site, nous avons les deux espèces vivant à proximité et à la même période. Donc cela pose la question de comment elles ont vécu ensemble ainsi au même endroit et au même moment. Était-ce parce qu'il y avait des ressources en abondance et qu'elles n'avaient pas à être en concurrence, ou était-ce parce qu'elles occupaient des niches différentes dans l'environnement ? Ce sont les questions sur lesquelles nous continuons de travailler. Mais pour sûr, le mode d'évolution n'était pas entièrement linéaire comme nous le pensions auparavant.
On continue de s'interroger autour de la question de nos lointains ancêtres en Éthiopie et en musique avec un groupe franco-éthiopien très évolutionniste, You Can Dance, sur RFI. You Can Dance, c'est le cas de le dire, sur RFI, entre Paris et Addis Abeba aujourd'hui. Autour de la question de nos lointains ancêtres australopithèques découverts en Éthiopie, l'Éthiopie, fabuleux terrain de recherche pour les paléontologues entre la vallée de l'Omo, la vallée de la Wash, pour les paléoanthropologues du monde entier, mais aussi et surtout désormais pour les paléoanthropologues éthiopiens et africains. Suite du reportage de notre correspondant Vincent Dublanche, avec arrêt sur le nouveau laboratoire de paléoanthropologie d'Addis Abeba que nous présente le paléontologue éthiopien Jonas Beyene, qui travaille lui sur les plus anciens outils taillés en pierre d'Afrique. Après avoir fait ses premières recherches en France avec le professeur Henri de Lemelay, aujourd'hui, Jonas Beyene est de retour en Éthiopie et pour cause.
L'ancien laboratoire qui a été créé par les Américains a été démoli et sur cette place, nous avons ce grand établissement financé entièrement par le gouvernement. Le gouvernement éthiopien est devenu très conscient de l'importance de cette recherche de paléanthropologie, de paléontologie, et toute l'archéologie, y inclut l'historique. Depuis, nous avons ce bâtiment en 2010. J'étais en charge de ce bâtiment pour organiser tout. Alors, avec l'appui de tous mes amis français, éthiopiens, Japon, États-Unis, avec cet amalgame de forces, nous avons équipé ce laboratoire. Maintenant, c'est une facilité que nous avons ici, qu'on n'a pas ailleurs en Afrique, à part l'Afrique du Sud. Le gouvernement, il met un budget important, c'est un pays pauvre, pour gérer ce laboratoire, payer tous les employés, mais financer le terrain, c'est un peu difficile. Faire la recherche paléanthropologique, c'est très cher, et ce n'est pas toujours rentable non plus. Mais le gouvernement facilite la recherche de tous les chercheurs du monde. Les chercheurs du monde viennent comme ils font ailleurs, avec des budgets de leur pays, de leur université, il y a des boîtes dans chaque pays, les fondations qui assistent des recherches paléanthropologiques.
Chaque année en Éthiopie, c'est plus d'une vingtaine d'équipes de recherche du monde entier hein, qui vient fouiller, travailler en Éthiopie, que ce soit à Addis Abeba dans ce laboratoire, mais aussi dans la vallée de l'Omo, dans la vallée de l'Awash, dans ce fameux triangle de l'Afar où ont été découverts parmi les plus précieux fossiles nos ancêtres hominines. On a fêté d'ailleurs cette année les 45 ans de la découverte de Lucie, c'était en novembre 1974. Son squelette parfaitement conservé à Addis Abeba et parfaitement conservé à Addis Abeba, de même que d'autres, hein, celui d'Ardi et d'autres témoins de nos origines. Ce bâtiment est juste derrière le Musée national d'Éthiopie, un grand bâtiment blanc à visiter pour nous, et c'est vraiment une première. Notre correspondant Vincent Dublange, avec pour guide Yared Assefa, il est étudiant et il lui a fait visiter les 30, quelques 30 coffres-forts fournis par l'Agence d'aide au développement japonaise. Yared Assefa qui espère bien d'ailleurs que cette formidable expérience dans son propre pays d'études des véritables squelettes fossiles de l'humanité. Nous ouvrirons d'autres portes en paléoanthropologie, visibilité tout de suite et ultra sécurisée de notre patrimoine commun de l'humanité.
Salam no, Yare.
Salam no, Bifno.
Dana.
Welcome.
Merci. Donc là, nous entrons dans le couloir où sont conservés les fossiles. Nous avons passé déjà deux grilles. Il y a beaucoup de sécurité autour de ces fossiles.
Bien. Yeah. It's secured, just, it's already grilled with metal.
Oui, c'est sécurisé. Il y a plusieurs grilles en métal avant d'arriver à l'endroit où on trouve les coffres-forts qui contiennent les fossiles. Nous entrons ici dans la première pièce. C'est la section destinée à la préparation des fossiles d'hominidés. Nous y préparons les fossiles avec différents produits chimiques, avec de l'air comprimé. Avant de travailler dessus, il nous faut enlever les concrétions, ce qu'on appelle matrice, les saletés, la roche autour du fossile.
Et alors, qui s'occupe de préparer justement ces fossiles ?
There are trained preparators. Again, at the same time, we are also responsible to do the preparations.
Il y a des préparateurs formés pour cela, et nous-mêmes, nous le faisons aussi. Quand les chercheurs ont suffisamment de temps, ils s'en occupent eux-mêmes. Dans cette grande pièce, nous avons trois pièces plus petites et une salle commune. Quand les chercheurs veulent préparer leurs fossiles en secret, ils peuvent utiliser ces trois pièces.
Pourquoi en secret ?
Parce qu'avant de publier, tout doit rester secret.
On referme la première porte. Et dans le couloir, trois autres portes. On se dirige vers la deuxième.
Now we are opening one of the three rooms where we put fossils.
Nous ouvrons l'une des trois pièces dans lesquelles nous conservons les fossiles dans des coffres-forts. Le matériel de comparaison est conservé dans des caisses en bois.
To keep comparative materials.
Donc c'est une pièce d'à peu près 50-60 mètres carrés, avec une grande table au milieu, des lavabos tout au fond à gauche, et puis des gros coffres-forts. Pourquoi ces crânes au-dessus des coffres-forts ?
These all craniums are not original fossils.
Ces crânes sont des moulages des découvertes du monde entier. Par exemple, ici, vous avez l'Homo erectus, et ici, le Néandertal d'Europe.
Donc ce sont des reproductions. Alors, pourquoi avoir tous ces fossiles ? Là, on voit écrit dentition des chimpanzés modernes, humains modernes. Pourquoi sont-ils ici, dans ces meubles en bois, à côté des coffres-forts ?
Quand les chercheurs font une nouvelle découverte, ils doivent la comparer avec les découvertes déjà faites, qui ont déjà été décrites et définies. Ils peuvent ainsi comparer avec les squelettes modernes, comme celui-là, et y déceler les principales différences et similitudes. Ils peuvent donc dire à quel groupe leur découverte appartient.
Vous avez tellement de clés.
Actually, it's not so much. Only
en fait, j'en ai pas tant que ça. Seulement 5 clés pour 5 portes. Donc voici l'autre pièce qui sert de laboratoire où l'on conserve également des fossiles dans des coffres-forts.
Donc, sur les coffres, Japan Official Development Assistance, l'agence d'aide au développement du Japon, c'est donc le Japon qui a fourni tous ces coffres.
Actually, most of the facilities in the paleoanthropology section here are supplied by the Japanese government.
La plupart du matériel de la section de paléoanthropologie a été financé par le gouvernement japonais, y compris les microscopes.
So in this room, different from the last room, we have a digital microscope.
Cette pièce est différente des autres car nous avons un microscope électronique, un appareil sophistiqué.
Microscope.
Oui, donc on a un microscope digital juste à côté et un écran pour pouvoir regarder la découverte.
Exactly. So using this equipment, you can do measurements.
Tout à fait. Donc avec cet équipement, on peut faire des mesures, une image en trois dimensions ou une image simple.
Before researchers.
Avant que l'on ait cet appareil, les chercheurs demandaient à exporter leurs découvertes.
Oui, parce que c'est l'une des questions. Les découvertes qui sont faites en Éthiopie n'ont pas le droit d'être exportées à l'étranger pour études, sauf autorisation spéciale. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas du crâne de l'Anamensis. Le docteur Ioannes l'a emmené, ce crâne, exceptionnellement aux États-Unis parce qu'il manquait un outil.
Oui, les chercheurs continuent de demander parfois l'exportation de leurs découvertes parce que nous n'avons pas de CT scan. Le CT scan est l'une des meilleures technologies. Elle permet d'atteindre et de voir l'intérieur de la découverte.
Et c'est possible, vous croyez que l'Éthiopie ait son CT scan un jour ?
Oui, c'est dans nos plans. Nous travaillons dur en collaboration avec différents acteurs impliqués pour réaliser notre rêve d'avoir un CT scan comme nos voisins. Comme le Kenya.
Donc, il y a en tout 30 coffres-forts, dont 29 sont occupés. Donc, la grande question que tout le monde se pose, c'est où est Lucie ?
Suspense autour de la question où est Lucie ? Dans quel coffre-fort de ce bâtiment situé derrière le Musée national d'Éthiopie est donc conservé le squelette complet de celle que nous surnommons la grand-mère de l'humanité et que les Éthiopiens nomment Denkenesh, tuée merveilleuse en amharique. Le chercheur Yared Assefa s'apprête à ouvrir le coffre au trésor de l'humanité au micro de notre correspondant en Éthiopie, Vincent Dublanche.
Donc là, vous avez récupéré une clé dans le coffre-fort qui est dans votre bureau.
Exactly. We have backups actually. So we keep
et là, nous ouvrons l'un des coffres-forts dans l'une des salles. Et là, il y a donc un coffre en bois sur lequel il est écrit « Squelette partiel de Lucie AL-288-1 ».
It's kept on four separate safes. It's organized according to the anatomical position.
Nous le conservons dans quatre coffres de bois. Les fossiles sont disposés selon l'ordre anatomique. La matière sur laquelle elle repose est une mousse spéciale dans laquelle nous creusons de petites encoches de la taille de chaque fossile. Avant, Lucie était conservée sur de la mousse ordinaire, ce qui explique qu'elle a cette couleur jaunâtre. C'est à cause de la réaction chimique entre la mousse ordinaire et le fossile.
Yared, vous qui passez toute la journée avec tous ces fossiles, là, on est face à Lucie, peut-être la plus fameuse de toutes les australopithèques et probablement le fossile le plus connu du monde. Qu'est-ce que vous ressentez au quotidien de travailler ici ?
Yeah, it's fantastic. Actually, just having a privilege to take care of such precious.
C'est fantastique et je suis un privilégié de m'occuper de fossiles si précieux. Lorsque j'ouvre les portes, je salue toujours les fossiles conservés ici. Quand les chercheurs demandent à travailler sur les fossiles complets d'Hardy, de Lucy, de Selam, lorsque j'ouvre les coffres-forts, je les salue.
Good morning, Selam. Good morning, Hardy. And good morning, Lucy. So, it's a great privilege for me.
Donc, c'est un immense privilège de prendre soin de ces merveilleuses découvertes de l'Éthiopie. Je suis très heureux de travailler ainsi aux côtés de mes ancêtres, anciens et plus récents, depuis 6 millions jusqu'à 160 000 ans et l'Homo sapiens idaltu. Donc, en fait, je ne suis pas seul dans cette pièce.
I'm not alone, actually, in this room.
Merci à notre guide Yared Assefa qui salue si joliment Hardy, Selam, Lucy et Idal tout autour de la question. En Éthiopie, l'Éthiopie berceau fertile de notre humanité, terre de rêve pour les paléoanthropologues et les palynologues comme Doris Barboni que nous retrouverons tout à l'heure, qui elle a participé à la reconstitution de l'environnement du plus ancien crâne d'Australopithèque découvert dans la phare en Éthiopie, ce qui n'enlève rien en antériorité à Toumaï, hein, qui reste notre plus lointain ancêtre. Je dis ça en toute amitié à nos auditeurs et internautes tchadiens qui nous écoutent avec attention à N'Djamena sur 100.2 et que je salue d'ailleurs au passage. Nous repartons maintenant sur le terrain dans la vallée du Rift en Éthiopie, un terrain que connaît bien le docteur Berhane Asfa, spécialiste de l'évolution humaine, ancien directeur du Musée national éthiopien, qui a travaillé quelques années à l'université de Berkeley aux États-Unis et qui a décidé de rentrer à Addis et surtout de revenir sur le terrain dans la vallée du Rift. Un terrain de découverte et de recherche inégalable, comme il a expliqué au micro de notre correspondant en Éthiopie, Vincent Dublanche.
Ce n'est pas quelque chose dont tu te lasses. Tu es fatigué, il fait chaud, c'est poussiéreux. Mais le plus important, ce sont les multiples questions auxquelles tu as envie de répondre. Le plus important dans la science, c'est que lorsque tu prouves quelque chose ou que tu réponds à une question, eh bien, 10 autres surgissent. Donc, à chaque fois, tu vas sur le terrain avec de nouvelles idées à tester. En règle générale, tu falsifies ta propre idée. Ce que tu pensais était faux et tu fais une nouvelle découverte, une chose à laquelle tu ne t'attendais pas. Cela te pousse à continuer, cela te donne de l'énergie. C'est comme un carburant, ça te donne la pêche. Donc non, ce n'est pas ennuyeux, c'est plutôt motivant. Cela ne rapporte pas beaucoup d'argent, mais ça t'apporte de la satisfaction en termes de savoir. C'est très excitant.
Very exciting. And every time you go to the field, it's a new excitement.
Chaque fois que tu vas sur le terrain, l'excitation est renouvelée, car tu ouvres un nouvel horizon. Comme vous le savez peut-être, chaque découverte n'est qu'un point dans la ligne. Il n'y a pas un lien manquant, mais des millions de liens manquants. Donc, comparé à l'immensité de tous ces liens manquants, nous ne faisons qu'ajouter à chaque fois un peu de connaissances. Et nous réussissons plutôt bien dans ce domaine.
C'est le moins qu'on puisse dire. Désormais, le crâne MRD est conservé aux côtés des autres joyaux de l'humanité en Éthiopie. Les chercheurs accrédités pourront venir l'examiner, le comparer avec leurs propres recherches, critiquer les études publiées ou y ajouter de nouvelles précisions, car la recherche ne s'arrête jamais et ne cesse de se remettre en doute, comme l'expliquait un peu plus tôt le docteur Berhane, ancien directeur du Musée national éthiopien, lui-même découvreur de plusieurs fossiles qui ont révolutionné la connaissance de notre évolution. Le docteur Berhane, qui a pas mal de questions en tête, notamment à destination de son collègue, le découvreur, le docteur Ioannes, à propos du crâne d'Australopithèque anamensis, dit MRD.
Est-ce vraiment un individu moyen ou bien est-ce une version extrême dans cette espèce? On espère vraiment en trouver davantage et voir, car cela pourrait très bien ne pas être un spécimen dans la moyenne de son espèce. Y a-t-il aussi de grandes variations, comme pour Afarensis? Car quand vous voyez l'Afarensis, l'espèce de Lucy, les femelles sont petites et les mâles sont très grands. À quel genre de variation peut-on s'attendre dans le cas de l'Anamensis, dont le docteur Ioannes a trouvé le crâne? C'est une question, car les variations disent beaucoup sur la biologie sociale et sur les relations de parenté.
Autant de questions ouvertes et partagées par l'autre découvreuse du crâne de MRD, de notre lointain ancêtre Australopithèque, Stéphanie Mélilot de l'Institut Max Planck de Leipzig, qui elle aussi n'en est qu'au tout début de ses découvertes et qui compte bien poursuivre.
Le fait que nous ayons été capables de conclure que ces deux espèces ont vraiment vécu au même moment, au même endroit, me conduit, à titre personnel au moins, à vouloir réexaminer les nombreux fossiles d'hominines entre 3,8 et 3,6 millions d'années que nous avons collectés. Ce regard neuf sur ces fossiles permettrait de se poser ces questions. Est-ce qu'on trouve de nouvelles preuves de chevauchement entre ces espèces? Et si oui, pendant combien de temps l'Anamensis a vécu en même temps que l'Afarensis? C'est un aspect sur lequel je serais intéressée de travailler dans le futur.
Le travail collaboratif va se poursuivre en Éthiopie avec de nouvelles pistes de recherche ouvertes par cette formidable découverte du crâne de MRD, notre lointain ancêtre Australopithèque Anamensis, qui nous invite évidemment à rouvrir notre album de famille, à remonter le temps sur le site de Voranesso-Milet, c'est à quelques 550 km au nord d'Addis Abeba où l'on retrouve le découvreur de MRD, le docteur Ioannès.
Et là aussi, nous continuons notre travail pour si on peut trouver le reste fossiles qui peuvent connecter le chaînon manquant entre le plus ancien hominidé que nous avons au Tchad, trouvé par Brunet, et celle que nous avons trouvé ici aussi en Éthiopie, le Ardipithecus Kadapa, encore en Midelawash, qui peuvent lier ça, ces deux espèces avec l'ancêtre commun des grands singes, les chimpanzés et les hominidés. Alors, c'est un pays, c'est le paradis pour un préhistorien et pour un paléontologue.
Un paradis pour les préhistoriens, pour les palynologues aussi, comme vous, Doris Barboni. Vous êtes toujours en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu Aix-en-Provence.
Oui, je suis là.
Vous voulez réagir à tout ce qu'on a entendu? Parce qu'effectivement, on se rend compte que l'Éthiopie, pas seulement l'Éthiopie, mais il se trouve que c'est vraiment un terrain de recherche extraordinaire. Vous qui êtes spécialiste de l'environnement, aussi du climat, enfin à l'époque, est-ce que c'est lié justement à l'environnement, au climat de l'époque ou à l'environnement qui lui a succédé, qui a peut-être permis la conservation de ces fossiles?
Il y a le contexte géologique qui est très important en fait dans ces études parce que le rift est-africain est une fracture de la croûte terrestre qui survient du fait que deux plaques s'écartent. Et donc quand les plaques s'écartent, ça crée des effondrements, des bassins se forment et ces bassins vont accumuler des sédiments qui du coup vont permettre l'enfouissement de restes qui vont devenir des fossiles plus tard. Donc oui, l'Afrique de l'Est, l'Éthiopie est un endroit, l'Éthiopie, le Kenya, sont des endroits favorables à la préservation des fossiles. Donc c'est une raison pour laquelle on trouve beaucoup de fossiles là, mais peut-être pas. Peut-être que l'environnement particulier et le climat qui a caractérisé cette région d'Afrique de l'Est ont permis l'évolution de l'émergence de formes bipèdes, de formes adaptées à une forte saisonnalité des ressources, en fait. Qui va peut-être stimuler une certaine intelligence, savoir repérer dans l'espace et dans le temps des fruits, des feuilles particulièrement comestibles. Tout ça peut avoir stimulé en fait l'émergence de nouvelles espèces.
Ouais, vraiment, ouais, toutes les pistes sont ouvertes autour de ce terrain. Les travaux sont loin d'être terminés. Je propose de retrouver une dernière fois. J'ai eu une petite erreur tout à l'heure parce qu'en fait, c'était le docteur Ioannès qui parlait lui en français et qui était intervenu. Je propose de retrouver une dernière fois le découvreur de MRD. C'est le docteur Ioannès Alé-Sélassié pour lui demander justement quand est-ce qu'il va retourner travailler sur le site de sa grande découverte.
Nous allons retourner sur le site et creuser le grès pour voir si le squelette complet se trouve là. Donc nous n'en avons pas encore terminé avec ce site. Si nous trouvons d'autres éléments, ce sera vraiment génial de pouvoir comprendre la relation entre Ardipithecus ramidus et Australopithèque anamensis. C'est l'une des questions majeures de notre étude. Les sédiments dans la région de Warrenso-Milet couvrent une période jusqu'à il y a 3 à 2,9 millions d'années. Et nous avons des hominines d'environ 3 millions d'années. Donc maintenant, ceux-ci vont être particulièrement intéressants quant aux origines de notre genre Homo. À quelle branche appartiennent-ils? D'où vient le genre Homo? Il y a de nombreuses hypothèses dans l'air. Les fossiles datant de 2,5 à 3,2 ou 3,3 millions d'années seront très importants. Donc nous irons sur ces sites géologiquement plus jeunes pour tenter d'y trouver davantage d'hominines et répondre à l'origine même de notre genre Homo.
On va laisser le docteur Johannes aller s'élasser à ses recherches, à ses découvertes, à ses rêves aussi. Vous comptez y retourner? Sur quoi vous travaillez aujourd'hui, Doris Barboni? Vous allez régulièrement sur le terrain en Éthiopie?
En fait, j'y vais depuis 2 ans avec la mission OGRE, qui se passe dans l'Homo, dans la vallée de l'Homo. Donc mm-hmm. C'est le sud de l'Éthiopie, avec la frontière, entre la frontière kényane et soudanaise. Mm-hmm. Où là, on a un enregistrement continu au niveau géologique, sédimentologique, entre 3,6 et 1 million d'années. Donc on a énormément de fossiles d'hominidés et d'autres restes fauniques d'espèces complètement différentes.
Donc cette région a toujours été peuplée, enfin, depuis ces... Oui. 3 millions d'années, elle a toujours été peuplée.
Tout a toujours été peuplé.
Oui, c'est vrai. Cette
région-là, en fait, a préservé en continu des assemblages de faune, pas toujours des pollens, malheureusement, et qui ont été étudiés par Raymond de Bonnefy, qui était venu dans votre émission.
Absolument formidable palynologue et pionnière de cette étude des microfossiles de plantes.
Sur l'Afrique de l'Est, en fait. On a beaucoup travaillé en Éthiopie, notamment sur le site de Lucie, sur le site d'Ardipithèque. Et c'est là où j'ai été initiée à la palynologie et à l'étude des phytolithes.
Sur le site d'Ardipithèque, ça a dû vous toucher quand notre doctorant a montré explique qu'il salue tous les jours Lucie et Ardi dans leur coffre-fort. C'est extraordinaire.
Oui, Ardipithèque, beaucoup de spécimens. Johannes parlait de... Béranet qui disait, oui. Mais ce MRD, c'est un fossile, c'est un spécimen, mais sûrement d'une population. Et est-ce que c'est un spécimen qui était particulièrement gros, particulièrement petit? On ne le sait pas encore, puisqu'on n'en a qu'un seul.
Bien sûr.
Alors que pour Ardipithèque ou pour les représentants de Australopithecus afarensis, le Lucie, il y a des dizaines de spécimens d'individus qui ont pu être retrouvés, en fait.
Bon, il faut continuer à creuser. Merci infiniment, Doris Barboni, même si ça a été un petit peu compliqué de nous retrouver, de nous expliquer un peu l'environnement de ce formidable Australopithèque. Reste à en trouver d'autres, on l'a bien compris. Merci à Vincent Dublange pour ce très beau reportage en Éthiopie sur les traces de nos ancêtres. Merci évidemment à tous les intervenants formidables, découvreurs et chercheurs. Désolée si j'ai un peu écorché vos noms, qui nous ont ouvert les portes de leur laboratoire à Addis Abeba et de leur formidable terrain en Éthiopie. Les photos de leur découverte, à commencer par le crâne et le visage reconstitué de MRD, mais aussi de ses découvreurs, sont à voir et à revoir sur notre page Facebook, qu'on se le dise. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur l'appli RFI Pure Radio et sur Spotify. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Entre science et science-fiction, autour de Tolkien, du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Autour de la question, quelle science cachée dans Tolkien, merci de votre curiosité sur hier, demain et bien sûr sur aujourd'hui. Gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de votre journal. Priorité santé.